BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC et le cabinet de stratégie BNL Compagnie. On est ensemble, comme chaque mois, vous le savez maintenant, pendant une heure pour faire passer son grand entretien à une personnalité. Bonjour Vincent.
Bonjour Edwige.
Et aujourd'hui, notre invité, il est le patron d'un grand groupe de spiritueux familial. C'est important. Bonjour Éric Vallat.
Bonjour, bonjour Edwige, bonjour Vincent.
Merci donc Edwige. Éric Vallat, vous êtes le directeur général de Rémy Cointreau, un groupe, un grand nom surtout du monde des liqueurs en France. Vous faites 1 milliard de chiffre d'affaires et comme beaucoup de ces groupes-là, vous faites beaucoup à l'étranger, vous ne vendez que 2% en France et tout le reste donc sur toute la planète avec 70% sous les différents formats, les différents flacons de Rémy Martin. Alors l'entretien, je sais, je vous le rappelle, c'est un entretien multicanal. On le retrouve dans le print de Challenge, mais aussi sur les sites de BFM Business et de Challenge. Et puis, le week-end, à l'antenne de BFM Business.
Merci d'avoir accepté d'être une invitée. Ça vous va à peu près, quoi, pour l'instant?
Très bien.
Avec nous, très bien. Mode d'emploi de cette émission, je vous le rappelle, 4 parties. Une première partie actualité, une deuxième partie plutôt business. Le brief de notre partenaire Bain & Compagnie. Et puis, bien sûr, le redouté micro-trottoir avec les étudiants HEC et les questions des alumni. Tout de suite, les questions d'actu.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Éric Vallat, l'élection présidentielle, ça y est, elle est derrière nous. Est-ce que pour vous, c'est toujours une période un peu d'incertitude? Évidemment, je ne parle pas sur le plan politique, mais sur le plan des affaires. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous le redoutez? Parce qu'on sait pertinemment que la suite ne va pas être simple.
Alors, incertitude toujours, forcément. Est-ce qu'on le redoute plus ou moins, hein, comme vous l'avez dit, une grande partie de nos activités se déroule aussi à l'étranger, même si nous produisons la majeure partie en France. C'est donc bien évidemment un événement qui nous concerne, dont l'impact est peut-être plus limité que certains autres événements auxquels nous sommes confrontés actuellement dans le monde.
On va y revenir justement avec Vincent.
Alors justement, quelle importance représente cette décision qui a été prise par les grands noms du luxe et du monde des alcools de ne plus vendre sur le marché russe? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Rémy Cointreau?
Alors le marché russe et le marché ukrainien, qui pour des raisons différentes n'est pas livré non plus, hein, c'est moins de 2% de notre chiffre d'affaires, 1,5%. Donc l'impact business est relatif. Je dirais que c'est plus un impact humain, hein. On a des équipes en Russie, en Ukraine, et pour lesquelles évidemment la situation est très difficile à gérer, surtout dans ce contexte d'absence d'activité. Et je dirais que cela a été pour nous l'essentiel de l'impact aujourd'hui. Et puis il y a peut-être un impact qu'on verra plus tard, qui n'est pas encore arrivé, qui est celui de l'impact sur les coûts, sur la supply chain d'une manière générale.
Bien sûr, on va y revenir juste rapidement peut-être pour nos auditeurs et téléspectateurs. Si on regarde la ventilation de votre chiffre d'affaires, on va parler de la Chine dans un instant. C'est quoi la ventilation de votre chiffre d'affaires?
Les États-Unis, premier marché, 65% à peu près du chiffre d'affaires, suivi de la Chine à 20-23% du chiffre d'affaires, la grande Chine, on va dire, et l'Asie, et puis enfin l'Europe, à 17%, sont des chiffres arrondis.
Alors justement, la Chine, on voit que la Chine est dans une situation très compliquée, parce qu'il y a de nouveau la crise de la Covid qui sévit, on voit ce qui se passe à Shanghai, des événements dramatiques. Est-ce que pour vous, ça a un impact forcément sur la consommation d'alcool et du spiritueux?
Oui, l'impact, est, on ne peut pas le nier, à court terme, il est très important. Hein. Ce qu'on appelle le on-trade, hein, donc l'endroit où se passe la consommation sur place, les bars et les restaurants sont fermés. Et puis en Chine, il n'y a pas cette même tradition qu'on peut avoir dans l'Occident de consommer à la maison. On consomme quand on sort. Donc ça a un impact. J'ai tendance à le considérer comme un impact plus court terme, qui ne remet pas en question les perspectives en Chine, qui elles sont plutôt excellentes pour nos produits et nos métiers.
Mais on a le sentiment qu'à l'intérieur de Rémy Cointreau, du coup, on fait davantage attention, pas simplement sur les États-Unis, mais aussi sur l'Amérique du Sud. Est-ce qu'effectivement, il y a de la part de la direction une volonté de pousser ces régions-là?
L'Amérique du Sud...
Attention, il connaît très bien l'Amérique du Sud, bah... Vincent Beaufils. C'est une question presque personnelle, hein, passant.
Alors, je vais essayer d'y répondre. Alors, je connais bien aussi l'Amérique du Sud, pas particulièrement en soi. Je dirais que là, c'est plutôt par marque. et par marché qu'on va regarder. En tant que groupe, l'enjeu n'est pas là. Mais si vous prenez une marque comme Cointreau, qui est présente dans plus de 5 à 600 cocktails, en Amérique du Sud, il y a du potentiel.
Mais je parlais de l'Amérique du Nord, surtout, oui. En réalité.
Pardon, alors l'Amérique du Nord, là, effectivement, c'est un marché qui est important, qui va le rester, même si nos perspectives sont que la Chine gagne du terrain en proportion. Les États-Unis restent notre premier marché en termes d'investissement.
Oui, mais est-ce que vous voulez pas en faire davantage compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Chine ?
Non, on en fait déjà beaucoup. Et depuis plusieurs décennies, on a accéléré, parce qu'on est dans une très bonne situation financière, nos investissements. Et on va poursuivre ces investissements. Mais en Chine, on est impacté à très court terme. On garde nos perspectives d'investissement sur le marché chinois, parce qu'il reste celui qui présente aussi de très belles perspectives de croissance.
On reviendra sur l'année 2022 et sur les marges. Juste, le chiffre d'affaires 2021 était de combien ? Et puis, les marques phares ?
Bon. 1 milliard d'euros, on va dire. Les marques phares Rémy Martin, Louis XIII, Cointreau, et je ne sous-estimerai pas nos whisky qui sont en train d'exploser, ainsi qu'un gin qui s'appelle le Botaniste, qui est aussi en train de connaître de très belles croissances.
On y reviendra parce qu'évidemment, vous avez beaucoup investi sur le Botaniste. Une question sur le Duty Free Shop, parce que le business, repartait, il repart quand même un peu. Est-ce que ça se voit dans vos ventes de Duty Free Shop ?
Oui, ça se voit. Les croissances sont rapides maintenant, mais ça reste des niveaux d'activité très faibles. On continue à investir sur ce créneau parce qu'il est porteur d'image. Mais à très court terme, ça reste sur l'année à venir. Nous, on a l'exercice fiscal décalé, hein, oui. Donc de avril à mars 2023. Sur ce fiscal-là, on ne compte pas particulièrement sur le travel retail, oui. Même si on continue à investir sur ce réseau.
Alors, lors de vos derniers résultats, vous avez précisément dit qu'effectivement, ils avaient été excellents. L'augmentation des volumes, on peut la comprendre, compte tenu de ce qui s'est passé avec le Covid. Mais surtout, il y a une très forte augmentation de la marge, quelques 8 points si mes souvenirs sont bons. Comment est-ce qu'en fait, vous avez obtenu ce gonflement des marges ?
D'abord, bénéficier de tendances qui préexistaient Covid, hein, mais que Covid est venu accélérer, comme la montée en gamme, par exemple. Il y a une tendance qui consiste à boire moins, mais mieux. Qui nous est favorable et qui est favorable à la valeur, qui fait que l'intérêt se reporte plus sur nos produits et ça nous donne de la pricing power que nous n'avions pas forcément autant. Par ailleurs, je pense que les investissements très importants qu'on a fait derrière la désirabilité de nos marques et la qualité de nos produits nous permettent aussi, nous, d'envisager des positionnements prix qui n'étaient peut-être pas forcément possibles ou reflétés par le passé.
Oui, en même temps, on le voit bien, vous l'avez un peu mentionné, Eric Vallat, tout à l'heure, il y a le retour de l'inflation, il y a les difficultés de production aussi. Sur le verre, le prix du verre a beaucoup augmenté. Vous avez besoin de verre, c'est clair. De combien est-ce que vous avez augmenté vos prix, vous, par exemple, sur une vente de quoi, une bouteille de...
Alors, ça dépend des produits.
Rémy Cointreau, mais... allons-y.
Sur Rémy Martin, on est sur des augmentations de 8 à 10%, par exemple, ouais. Hein, voire plus sur certaines qualités très haut de gamme. Et ça n'a pas d'impact négatif sur les volumes. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la désirabilité de la marque est très forte. Et pardon, j'ai oublié de le citer. Quand je disais, je parlais des tendances qui préexistaient Covid, boire moins, mais mieux. Donc c'est vraiment une tendance de monter en gamme qui nous est très favorable et qui nous donne cette possibilité-là aujourd'hui.
Oui, d'accord. Donc vos prix, grosso modo, c'est 8 à 10%.
Sur le cognac, oui. Ce sera moins important sur certaines autres catégories parce qu'on a une vraie stratégie de portefeuille aussi.
Sur les négociations commerciales avec la grande distribution, vous en êtes où ? On sait qu'il y a eu des négociations qui ont été closes. Elles se sont réouvertes avec tout ce qui se passe.
Alors nous, comme on clôture fin mars, elles viennent de se terminer.
Oui.
Hein, donc elles sont en train d'être mises en œuvre et ça se passe plutôt bien. Y compris dans des marchés plus difficiles, hein, comme la France, la Belgique ou l'Allemagne, qui sont des marchés de grande distribution plus complexes. Encore une fois, c'est plus important sur le cognac que ça ne l'est sur le reste de nos produits.
Mmh. Alors, quand on regarde la manière dont vous avez traversé ce Covid, en bourse, en fait, vous l'avez beaucoup mieux traversé que certains de vos concurrents. Votre progression, par exemple, est trois fois plus élevée que celle de Pernod Ricard. Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres ?
Toujours très difficile de se comparer. Ce que je peux déjà vous dire, moi, une chose qui m'a beaucoup frappé parce que je suis arrivé un mois avant le déclenchement de Covid et trois mois en Europe, c'est que la première chose que m'a dite la famille d'actionnaires de référence,
Les Herrières-Dubreuil,
c'est Eric, continue à travailler la vision à long terme. Au moment où toutes les usines étaient fermées dans le monde entier en même temps, où le carnet de commandes en avril était à moins 75%, le message était continuez à travailler votre vision à long terme. Je pense en tout cas qu'une des vertus d'avoir un actionnaire de référence familiale, c'est cette capacité à garder une stratégie cohérente, dans le contexte. Après, je pense que, je ne sais pas ce que l'on fait de mieux, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on hérite de très jolies pépites qui ont plus de 300 ans d'histoire, qu'on a une transition de discrétion dans le groupe, et que si on se met à les travailler un petit peu en communication, en attractivité, en désirabilité, comme le produit est magnifique, c'est vrai que ça paye vite.
Oui, mais le résultat de tout cela, c'est que vous avez maintenant une capitalisation en bourse qui représente 50 fois vos bénéfices. Est-ce que c'est bien raisonnable ?
Alors 50 fois, ça dépend des jours et des semaines, mais elle est très élevée, effectivement. On a partagé un plan à 10 ans, ce qui est assez rare d'ailleurs, hein, mais 10 ans, quand on a un actionnaire de référence familiale et qu'en plus, on a des produits qui vieillissent, pour XO par exemple, 10 ans et plus, pour nous c'est un horizon de temps raisonnable en fait. Et ce plan à 10 ans, si on le réalise, je pense que la valorisation actuelle est tout à fait raisonnable.
Sur cet aspect familial, culture familiale, vous avez beaucoup de questions là-dessus un peu plus tard, vous allez pas y couper Eric Bala, même si vous nous direz justement si c'est simple ou pas. Mais ça, on le réserve pour la fin. Vous venez d'annoncer, vous parliez de communication, de marketing, vous venez d'annoncer un accord avec Leonardo DiCaprio sur votre champagne tellement. Qu'est-ce que ça vous apporte ? On en a tous parlé, évidemment. C'était le but. Vous travaillez beaucoup avec des names, des personnalités fortes. Aujourd'hui, c'est la nouvelle manière de communiquer. Alors, et sur Leonardo DiCaprio, vous l'avez rencontré ?
Je ne l'ai pas encore rencontré, Covid n'ayant pas rendu la chose possible. Leonardo DiCaprio, c'est pas tellement de la communication, pour être tout à fait honnête. C'est d'abord le fruit d'une rencontre entre l'actuel président de Telmont et Leonardo DiCaprio, et quelque part une vision partagée de ce que l'on pourrait appeler l'agriculture raisonnée, l'évolution vers de la champagne vers le bio, qui a beaucoup intéressé Leonardo DiCaprio et qui a donc souhaité investir à nos côtés sur ce projet. Donc au départ, c'est ça. Il se trouve qu'en plus, effectivement, c'est un vecteur de communication intéressant. Ce que ça apporte, c'est de la notoriété. Telmont est une très jolie petite marque, très peu connue. Aujourd'hui, tout le monde me parle de Telmont.
Et ça a eu un impact sur les ventes ?
Ah, il est encore tôt pour le dire, mais on l'escompte bien, oui. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect Leonardo DiCaprio, ce qui aura un impact sur les ventes, c'est tout le repositionnement que l'on a fait sur la marque aussi.
Ça coûte cher d'avoir Leonardo DiCaprio.
Il est investisseur.
Oui.
Alors évidemment,
il est actionnaire.
Il est actionnaire.
Sur Telmont ou
oui,
sur l'ensemble ?
Sur Telmont. En raison du projet. Voilà. Maintenant, on a fait beaucoup d'autres choses. Si vous prenez le botaniste, par exemple, qui est un...
On y reviendra tout à l'heure.
Oui, mais non, mais botaniste, parce qu'il y a aussi un...
En parlant de communication,
il y a aussi un people,
même.
Comme on dit. Il y a aussi un name.
Alors, moins, mais en revanche, on a fait... on a, par exemple, investi dans une publicité au Super Bowl américain. C'est disproportionné au regard de la taille de la marque aujourd'hui. Mais ça, en revanche, on le fait parce qu'on pense que cette marque a un potentiel de croissance très important et que les investissements d'aujourd'hui sont les ventes de demain.
Merci beaucoup. On passe à la deuxième partie. C'est l'heure du brief de Bain.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Retour donc sur le plateau de l'entretien d'Éric Vallat, le directeur général de Rémy Cointreau, et nous commençons cette séquence avec le brief de Bain, et c'est donc Joëlle de Montgolfier, qui est vice-présidente du pôle grande consommation de Bain, qui va faire un peu le pitch, comme si elle allait vous vendre toutes les capacités de Bain à améliorer votre business. Je la laisse, c'est à vous Joëlle.
Éric Vallat, depuis votre arrivée à la direction générale du groupe Rémy Cointreau, vous avez réussi à maintenir la rentabilité du groupe en dépit d'une déflagration du Covid sans précédent. Et vous avez vu le cours de bourse multiplié quasiment par deux. Donc bravo pour ce résultat. Nous, à notre sens, vos défis pour le futur, ils se situent plutôt dans la capacité à croître et à vous maintenir à un niveau de compétitivité dans l'industrie mondiale des spiritueux. Aujourd'hui, vous avez une forte dépendance vis-à-vis du cognac, 3/4 de votre chiffre d'affaires. C'est un métier qui a une forte valeur ajoutée, des marges élevées, mais dont la capacité de croissance est tout de même contrainte. La matière première provient d'une zone géographique très limitée. Tout ce qui entre en cave aujourd'hui doit être soumis à des vieillissements de plus de 10 ans. Et vous avez des marchés géographiques tels que les États-Unis ou la Chine sur lesquels vous allez faire face à quelques incertitudes dans les mois à venir. Donc, l'impératif de la diversification nous semble incontournable. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, vous avez 1/4 de votre chiffre d'affaires sur des marques de whisky, de liqueur et puis une marque de gin. C'est un segment qui est, sont des segments qui sont très combattus. On pense qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a plus de 250 marques de whisky dans le monde, plus de 6000 marques de gin. Sont des segments qui opèrent aussi avec une rentabilité inférieure de moitié à celle du cognac. Donc aujourd'hui, dans le marché, vous faites un peu figure de petit pousset. Vous avez des concurrents absolument redoutables qui ont un effet de taille ou un avantage de taille sur vous considérable. Le leader mondial Diageo fait 13 fois la taille du groupe, Pernod Ricard 9 fois, Moët Hennessy 6 fois. Ils ont tous les trois des portefeuilles larges, diversifiés, avec des marques renommées, prestigieuses, des accès privilégiés aux canaux de distribution. Et par rapport à ça, vous semblez légèrement désavantagé. Pas de position franche de leadership, même dans le cognac, votre métier historique. Et toutes vos marques ne sont pas aussi prestigieuses que Rémy Martin, Louis XIII ou Cointreau. Donc aujourd'hui, Éric Vallat, y a-t-il encore une place pour un acteur de petite taille à actionnariat familial sur ce marché ? Pour filer l'analogie du petit pousset, est-ce que vous allez devoir enfiler vos bottes de 7 lieues et commencer à mener des acquisitions tambour battant pour reprendre un peu un avantage de taille ? Ou est-ce que vous allez devoir vous vendre au plus offrant des ogres, voire même sortir de la cote pour de rester fondamentalement un actif patrimonial familial ?
Voilà, de bonnes questions de la part de Joël de Montgolfier, Éric Vallat.
Absolument, il y en a beaucoup. Là, je vais essayer d'y répondre rapidement, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Petit pousset, absolument. Alors, j'espère même qu'il y a une quatrième voie dont j'aurai peut-être l'occasion de parler. D'abord, vous l'avez dit, on est dans une situation financière très saine, ce qui effectivement nous met dans une position favorable pour considérer des opérations de croissance externe, même si on le fera toujours avec le filtre de nos valeurs, ce qui est assez spécifique pour notre groupe, et ce qui ne plaît pas forcément pour une taille conséquente, même si on a les moyens de regarder des tailles importantes. Mais je vais d'abord revenir sur tout ce que vous disiez, d'abord sur la diversification et la possibilité de la diversification. Je pense que, heureusement, que tout n'est pas question de ressources financières, en l'occurrence. C'est vrai que si on avait la même stratégie que nos concurrents, avec la moitié ou le quart de leurs moyens, on irait nulle part. Notre seule chance serait de finir par se faire écraser. Et en fait, on avait deux options pour ne pas se faire écraser. On sort par le haut ou on sort par le bas. Compte tenu de la nature de nos produits, et notamment parce qu'on a Louis XIII dans notre portefeuille de marques, il était naturel pour nous de sortir par le haut, hein, Louis XIII étant une marque emblématique et peut-être la seule marque de luxe dans l'univers des spiritueux. Et ce choix de sortir par le haut, on l'a fait il y a plusieurs décennies. Pardon, un tout petit peu d'histoire, mais le passé éclaire l'avenir.
Rapidement, malheureusement, oui.
Bon, alors j'y reviendrai sur l'histoire. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire par là, c'est que on a fait très tôt ce choix-là de la valeur, et je pense que dans un contexte contraint de volume sur le cognac, il est extrêmement porteur. Puis après, je parlerai de la diversification. Sur le cognac, en fait, le potentiel de croissance reste très important sur des grades comme XO. Vous avez parlé de 10 ans de vieillissement, en l'occurrence, c'est XO. On a les stocks. On a les stocks pour croître. Et XO, c'est beaucoup de valeur si on y arrive. Si on atteint notre plan sur XO, je peux vous dire que le chiffre d'affaires du cognac dans 5 ans n'aura rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, malgré les contraintes. Par ailleurs, pour ce qui est des contraintes du cognac toujours, il faut savoir quand même que l'interprofession s'est mise d'accord sur un plan à 10 ans, et même plus, l'interprofession qui réunit les gens des viticulteurs et les maisons de négoce, et que sur ce sujet-là, ce plan est ambitieux et va déboucher sur des plantations nouvelles. Ça va prendre 10 ans ou 20 ans, mais on vient de parler d'un horizon de 10 ans pour XO. Donc pour nous, c'est un horizon raisonnable.
Je pense que pour la diversification, on va en parler dans la séquence business qui vient, Éric Vallat.
D'accord.
Donc voilà.
Bon, mais répondez quand même à la question, vous faites quoi de la stratégie du petit pousset ?
Donc on a d'abord un potentiel de croissance important sur le cognac. Par ailleurs, on a d'identifier. Moi, la deuxième chose, c'est que je pense que c'est une question aussi de stratégie de priorisation. C'est-à-dire qu'avec nos moyens qui sont moins importants, si on veut investir sur tous nos produits, on n'y arrivera pas. On a mis en place une stratégie de portefeuille de marque il y a maintenant 2 ans. Cette stratégie de portefeuille de marque, elle doit nous permettre de changer d'échelle considérablement sur un certain nombre de nos produits. Je vais prendre juste 2 exemples. Le gin du botaniste, dont on va multiplier par 5, voire plus les volumes, et les malts qui ont un potentiel de croissance extrêmement important, derrière lesquels on n'investissait pas parce qu'on n'avait pas de stratégie de portefeuille. Aujourd'hui, on est en train de changer de braquet, et c'est un relais de croissance important. Encore une fois, sans oublier par ailleurs la croissance externe, qui va devenir un sujet. Juste pour terminer, j'avais dit il y a 2 ans qu'on se concentrait sur nos marques d'abord pour mettre en œuvre cette stratégie de portefeuille. Et j'avais dit, mais dans 2 ans, on commencera à parler de croissance externe.
Eh bien, ça tombe bien. Il y a une question d'Alumni tout à l'heure là-dessus. Vous allez voir. Merci beaucoup, Joël de Montgolfier. Vous avez challengé, comme on dit, notre invité tout de suite.
Merci,
ça fait le lien avec la question business.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
L'entretien d'Éric Valla se poursuit. On arrive maintenant aux questions business qu'on a déjà un petit peu abordées avec Joël de Montgolfier de Bain. Justement, d'abord, est-ce que les consommations d'alcool ont baissé de par le monde? En France, c'est tout petit, vous l'avez dit, mais est-ce que maintenant, notamment les jeunes, est-ce qu'ils boivent moins? Et surtout, quelles sont les catégories d'alcool qui, en ce moment, on le vend en poupe?
Est-ce que les volumes baissent globalement? Je ne crois pas aujourd'hui. Je pense qu'ils augmentent peut-être moins vite que par le passé, compte tenu de cette tendance à la montée en gamme. C'est plutôt intéressant de la regarder par canal, d'ailleurs, en fait. C'est-à-dire que le canal on-trade de consommation dans les restaurants et les bars a évidemment baissé pendant 2 ans. Il est en train de revenir. Et le canal off-trade, donc la consommation retail, elle s'est beaucoup développée. Est-ce que les jeunes consomment moins? Je pense qu'ils s'inscrivent dans cette tendance quand même de consommer mieux. Ils s'intéressent plus au craft, à l'artisanat, à la nature, au lien du produit avec le terroir, au respect de l'environnement. Et donc sa consommation est différente en tout cas.
Oui, mais par rapport à ce que vous vendez, Rémy Martin, Louis XIII, le gin, est-ce que vous correspondez à cette nouvelle consommation, notamment des jeunes?
Oui, je pense qu'on a la chance d'être historiquement et culturellement très bien placé pour bénéficier de cette tendance. Notre ambition est de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception, et l'exception, c'est ça que ça veut dire. C'est le lien au terroir, c'est l'artisanat, c'est le haut de gamme. Et je pense que ça répond effectivement à une tendance lourde de consommation. Il y a une deuxième tendance qui est le cocktail.
Alors là, j'y viens justement parce qu'effectivement, je lis dans un excellent journal, Challenge.
Il fait toujours sa pub, vous inquiétez pas.
Que Pernod Ricard, pardonnez-moi de citer un concurrent, se grise au sans-alcool ou au low-alcool. Et notamment qu'ils ont mis en place effectivement un gin, je crois que c'est Beefeater, qui n'est pas à 40 degrés mais à 20 degrés. Est-ce que dans le développement par exemple de The Botanist, dont vous nous parliez tout à l'heure, vous avez prévu un chemin de ce type?
Alors moi je ne... Alors d'abord le no alcohol, moi je l'écarte. On est un alcoolier, une marque
et
de...
Vous,
un groupe
vous
de spiritueux. Et oui, on l'assume. Après on promet évidemment une consommation responsable, ne serait-ce que par les prix que l'on pratique. Donc oui, on l'assume.
Et je pense que c'est notre cœur de métier. Vous avez raison de le souligner.
Oui, tout à fait, absolument. Et encore une fois, je pense que les tendances actuelles y viennent. Il y a une tendance très importante que j'évoquais qui est le cocktail, qui amène à cette réflexion plus générale autour du low alcohol, qui est un sujet intéressant potentiellement pour certaines de nos marques que l'on étudie et que l'on regarde, mais que l'on fera à la Cointreau, que l'on fera à la Botaniste. Et il y a un autre domaine que l'on peut regarder qui est potentiellement aussi le ready to drink, le prêt à boire, mais aujourd'hui c'est pas qualitatif, et si on le fait nous, il faudra le faire de notre manière. Et donc je pense que ça revient presque à réinventer ce métier-là, et on regarde aussi. Et
qu'est-ce que c'est que votre manière?
C'est une manière qui fait que, si vous voulez, aujourd'hui dans le ready to drink, le spiritueux, la qualité importe peu. Le goût est un petit peu secondaire. Nous, on voudrait redonner toute sa valeur à la qualité du produit.
Justement, comment vous faites de l'innovation lorsqu'on a un groupe de spiritueux? Concrètement, est-ce que vous faites des testings avec des jeunes, les tendances? Comment est-ce que vous faites de l'innovation?
C'est une très bonne question, la question d'innovation, parce qu'en plus, on est dans des cycles lents. Nous.
Oui.
Ça n'empêche pas l'innovation, évidemment. Quand on lance un produit, il doit réussir dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Donc ce sont des lancements très importants, parce qu'il n'y a pas de zapping d'un produit à l'autre. Donc c'est très important de partir effectivement d'études clients, d'autant qu'on n'a pas l'accès, à part pour une marque comme Louis XIII, et j'y reviendrai peut-être, mais on n'a pas l'accès au client final. Donc les études et les enquêtes clients sont très importantes, et on en fait évidemment beaucoup. Maintenant, l'innovation, ça n'est pas que le produit. Aujourd'hui, justement, dans un métier où l'accès au client final est limité, l'innovation, elle est aussi là. Elle est dans la distribution de nos produits. L'innovation, elle peut être dans la relation client, elle est en amont, dans l'agriculture raisonable et le respect de l'environnement.
Quand vous dites un whisky fait dans les Alpes, est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux? Parce que là, on a tapé un peu les limites de la communication, du marketing.
Non, alors parce qu'il se trouve qu'il est fait dans les Alpes, mais ce whisky va beaucoup plus loin que ça. Le fondateur, qui est encore chez nous aujourd'hui, Frédéric Revol, est capable de vous dire de quel champ vient l'orge. Donc ça va beaucoup plus loin que de dire que c'est un whisky dans les Alpes. C'est la traçabilité totale, la transparence totale, et dans le respect le plus total de l'environnement. C'est d'ailleurs très compliqué à gérer, et ça limite pour le coup le potentiel de volume, mais c'est une très belle histoire pour le groupe, et on apprend beaucoup de cette démarche-là. Donc le whisky des Alpes dit comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais non. D'autant que vraiment, encore une fois, la provenance est totalement identifiée. Et nous croyons qu'il y a un impact du terroir sur la qualité organoleptique des produits.
Alors, à l'inverse, Éric Valla, vous avez un produit qui est incroyablement établi, installé, je dirais même un peu vieillot, si j'exagérais. C'est Cointreau. Et pourtant, quand on voit vos résultats, vous avez développé ce produit de plus de 50%. Comment vous avez fait ça avec, effectivement, la bonne vieille bouteille carrée que tout le monde a dans ses fonds de placard?
Alors bon, une bouteille iconique, si on l'anime bien et on l'active bien, ça peut être une force. Hein. C'est, en l'occurrence, c'est le cas pour Cointreau. Mais Cointreau peut paraître peut-être effectivement très associé à la Chandeleur, par exemple en France. Mais je parlais d'explosion du cocktail. C'est une opportunité formidable pour Cointreau, parce que Cointreau est dans plus de 500 cocktails et la Margarita, qui est le premier cocktail au monde, peut-être pas en France mais au monde, Madame Margarita, qui a donné son nom à ce cocktail, elle ne le faisait qu'au Cointreau. Et donc, on est reparti de la Margarita, puisqu'on a une crédibilité très forte, pour rebâtir cette légitimité de Cointreau dans le cocktail. Et c'est à l'origine de la rajeunissement de la marque et de son explosion par ailleurs.
Alors, on l'évoquait tout à l'heure avec notre ami de Bain, que vous avez des géants en face de vous. Comment est-ce que vous pouvez lutter avec eux alors qu'ils ont des réseaux et des arguments que vous n'avez pas?
Par la différenciation. La différenciation par le produit, ça commence par là. Il faut un produit.
C'est Hermès face à LVMH, quoi, grosso modo.
Oui, j'aime beaucoup la comparaison. on a été une fois cité comme le Hermès des spiritueux. Oui. Donc, c'est évidemment, ça fait notre fierté. Mais pour ce qui est de la différenciation, c'est pas seulement par le produit. Donc c'est aussi, par exemple, par la distribution. Parce que c'est vrai que sur certains canaux, on va être confronté à des groupes beaucoup plus grands qui ont beaucoup plus de moyens. Mais avec Louis XIII, on a une opportunité exceptionnelle qui est de réinventer un petit peu notre métier aussi, dont la distribution est très traditionnelle aujourd'hui. Si vous prenez Louis XIII, moi, mon ambition, c'est une ambition folle, mais on travaille pour ça, c'est que dans 10 ans, on soit à 90% sur un modèle retail, où on distribue, on contrôle notre distribution.
Dans vos propres boutiques.
On sait à qui on vend. Alors un modèle retail, ça veut dire nos propres boutiques, ça veut dire nos propres grands vendeurs, ça veut dire nos propres e-boutiques. Et nous, on est peut-être un petit peu pionniers dans ce domaine-là parce qu'on a Louis XIII, et là on n'est pas en concurrence. Et là on va se battre contre les autres marques de luxe. C'est une autre forme de concurrence. On a ouvert une boutique Louis XIII, juste pour votre information, à Shin Kong Place, qui est le mall de référence en Chine à Pékin. On a ouvert au premier étage, entre Fendi et Vuitton, et ça cartonne.
Wow.
Voilà, donc l'univers de concurrence pour une marque comme Louis XIII, par exemple.
C'est un changement stratégique énorme quand même pour votre groupe. Oui.
Alors attention, hein, tout ce qui est valable pour Louis XIII ne l'est pas pour Cointreau, et c'est là que la stratégie de portefeuille est importante. Mais en revanche, ça peut faire de nous un pionnier dans la distribution. Et je pense que c'est un élément de différenciation majeur.
Vous parlez beaucoup d'histoire, de temps long, puisque évidemment vous travaillez sur des produits de temps long. Qu'est-ce que ça change d'avoir un contrôle familial? Donc c'est un Rémy Cointreau étant en bourse, bien sûr, mais contrôlé par les arrières du Breuil. Mais comme beaucoup de groupes, on parlait de Pernod Ricard, LVMH, qu'est-ce que ça change d'avoir un contrôle familial?
Alors moi j'ai toujours travaillé pour des groupes familiaux.
Oui, Vitesse et Richemont.
Absolument. Mais je vais vous répondre en tout cas ce que pour moi ça apporte, hein, ou ce que ça change. Hein. Ça, c'est pas facile, évidemment, hein, puisque une famille, c'est un certain nombre de personnes avec des sensibilités différentes. Mais quand on a une famille dont c'est la quatrième génération qui aborde son métier avec à la fois toute la connaissance et toute l'humilité, en fait, ça permet de se nourrir et d'apprendre de cette expérience familiale, mais aussi de se projeter dans le long terme. On est coté, donc on a des contraintes à court terme, ça nous impose flexibilité, rapidité, agilité, mais on a aussi un actionnaire de référence qui nous permet de nous projeter dans le long terme. Je reviendrai pas sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais qui m'avait beaucoup frappé au début de la crise Covid.
Dernière question.
Oui, c'était lié à votre décision de vous doter d'une raison d'être, effectivement, en 2020. Et puis, je crois que savoir que votre maison de whisky est également une bicorp, ces entreprises qui sont bien sous tout rapport. Qu'est-ce que ça a comme importance? Est-ce que c'est pour sacrifier une marotte de communication aujourd'hui?
Non, je dirais même que on n'a pas été très bon dans notre histoire en communication sur ces sujets-là, parce que je parlais d'humilité et de modestie, il y a quand même beaucoup de ça chez nous. Et le fait est que depuis bien avant mon arrivée, il y a des valeurs très fortes chez Rémy Cointreau qui ont été encapsulées autour de ces termes terroir, people, les hommes et le temps. Et je pense que il s'agit plutôt aujourd'hui de les exprimer pour mieux fédérer. Et puis c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a une maturité beaucoup plus grande des clients finaux par rapport à ces thématiques-là. Et donc, il y a en plus un intérêt à les promouvoir pour mieux comprendre nos démarches. Parce que si nos produits ont un coût élevé, c'est aussi un prix élevé, c'est aussi parce qu'ils ont un coût élevé. On est très pionniers en matière d'agriculture raisonnée, par exemple.
Éric Vallat, on arrive au terme de cette première partie, deuxième partie avec les micro-trottoirs, les questions des alumni. Conclusion qui sera peut-être plutôt sur les questions de gouvernance. On se retrouve tout de suite et évidemment, tout ça, c'est à consommer avec modération.
BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Nous voici donc de nouveau avec Éric Vallat, le directeur général de Rémy Cointreau. Mais nous n'allons pas rester sur le plateau. Là, nous allons aller sur le campus d'HEC avec un micro-trottoir qui a été réalisé avec les étudiants et les étudiantes. Et vous verrez, il y a toujours des petites perles à glaner.
Bonjour.
Bonjour.
Rémy Cointreau, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu sais ce qu'ils font?
Pas du tout. Non, pas du tout.
Moi, non, ça me dit pas grand-chose.
C'est une entreprise dans le secteur de l'alcool. Je crois que c'est un groupe de plusieurs marques.
Alors, moi, Cointreau, c'est le nom vraiment qui m'évoque la marque Cointreau, donc de spirituel orange.
Pour moi, Rémy Cointreau, ça évoque plutôt des spiritueux de luxe, comme le Grand Marnier ou le Cointreau, qui sont des alcools assez raffinés. À ton avis, quel pays est le plus amateur de spiritueux?
À mon avis, peut-être la France.
Moi, je dirais la France.
Moi, je dirais les États-Unis, parce qu'en fonction des séries, on voit qu'ils boivent beaucoup de cognac, beaucoup de rhum, etc.
Les États-Unis parce qu'ils commencent à boire à 21 ans seulement, c'est trop tard à mon avis.
Ouais, je pense peut-être les États-Unis.
Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on voit dans la pop culture américaine qu'ils boivent beaucoup de spiritueux, notamment c'est quelque chose d'assez associé à la masculinité, à la virilité américaine.
Forcément c'est un plus gros marché. Et comme c'est un pays avec un niveau de vie assez élevé, par exemple ils s'intéressent de plus en plus au vin, donc pourquoi pas les spiritueux.
Est-ce que vous seriez prêt à acheter une bouteille à 25 000 $ par exemple?
25 000?
Oui.
Je pense qu'à 22 ans, c'est pas le genre de considération qu'on a. Mais en revanche, je pense que oui, se faire plaisir. Alors moi, c'est plutôt sur le vin, mais sur les spiritueux, je peux tout à fait comprendre que on puisse avoir envie de s'offrir un produit de luxe. En plus, le spiritueux est une bouteille qui se conserve dans le temps et enfin qu'on boit à petite dose, donc on peut avoir le sentiment d'en profiter longtemps et de pas avoir juste un sentiment de consommation rapide.
25 000 pour une bouteille? Pour une occasion très spéciale alors.
Rémy Cointreau, c'est un groupe familial. Est-ce que vous seriez prêt à travailler dans une entreprise familiale avec votre famille? Frère, père, mère, sœur, cousin, tante?
Moi je pense pas. Je pense pas que j'y arriverai.
Et pourquoi?
Je sais pas, déjà que c'est compliqué parfois à la maison. Je pense que ça sera encore plus compliqué au boulot, quoi.
Alors je trouve que ça peut être intéressant. Après j'avoue que je serais plutôt intéressée sur les valeurs en elles-mêmes de la marque que le côté familial qui pour moi n'a pas forcément d'intérêt. Ça dépend de ce qu'il y a derrière en fait.
Si je compare avec l'industrie de la bière en Allemagne, beaucoup de familles ont leur propre brasserie. Et j'ai l'impression que le modèle des entreprises familiales est apprécié dans le secteur de l'alcool, mais pas forcément dans les grandes entreprises.
Si vous étiez sur le plateau en face d'Éric Vallat, est-ce que vous aimeriez lui poser une question?
Comment faites-vous pour que l'association Business Famille fonctionne? Quel raisonnement éthique se cache derrière la production de whisky? Avez-vous des doutes quand vous voyez ce que l'alcool peut faire au corps humain? On pose bien cette question aux entreprises qui produisent du tabac. Donc pourquoi pas aussi à celles qui produisent de l'alcool?
Retour en plateau avec vous, Éric Vallat. Deux questions intéressantes, non? La dernière, c'est une...
La dernière, alors on nous la pose la question, hein, bien sûr, on se la pose, si évidemment, et je pense que c'est très important de promouvoir une consommation responsable. Encore une fois, on est effectivement sur un produit qui n'est pas neutre et qu'il faut savoir consommer.
Et sur la question familiale, comme on va y venir dans un instant, vous aurez l'occasion d'y répondre tout de suite. C'est la deuxième partie maintenant. On change de génération. C'est les questions d'HEC face à des alumni qui vous ont posé des questions.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Tiens, première question, je me suis dit que ça serait intéressant de commencer par là. C'est Marc Beretta, il est coach, il fait du coaching notamment à HEC. Écoutez, vous allez répondre.
Bonjour, je suis Marc Beretta. Je suis le directeur de l'école de coaching de HEC Paris. Et j'ai une question pour vous, Éric. Éric, vous êtes président président demande beaucoup d'énergie. Quels sont vos secrets pour garder votre énergie et votre motivation tous les jours?
Un peu d'introspection.
L'énergie facile, le sport et la famille. Voilà, j'ai fait partie de mon équilibre. C'est comme ça que je tiens et que j'évacue la pression et que je garde l'énergie. La motivation, quand on a la chance de travailler pour des marques tricentenaires et d'avoir un tel héritage entre ses mains, elle est assez naturelle.
Ça suffit.
Pour la motivation, oui. Après, moi, je suis très motivé par les hommes et les femmes. Donc, c'est vrai que la plus grande source de motivation, ce sont mes équipes derrière. Et quand on voit au poste où on est, l'impact que l'on peut avoir, parce qu'on est à la fois un grand groupe et un petit groupe, 2000 personnes dans le monde, on peut avoir un impact sur son organisation. C'est extrêmement motivant.
Alors, la deuxième question vient de Étienne Cazara. Et elle a trait, justement à cet aspect de la premiumisation, de l'augmentation constante des prix. Je lui laisse la vous poser.
Bonjour, Étienne Cazara, HEC 2011, responsable investissement chez ICG. Ma question pour vous, Eric, comment faites-vous pour démocratiser la consommation de spiritueux dans un marché où les prix ne cessent d'augmenter?
Oui, alors d'abord, le prix, hein, c'est la conséquence, c'est pas l'outil de la montée en gamme. Autrement dit, quand le prix est élevé, il faut qu'il y ait de la justification derrière. C'est un premier élément
de
réponse.
Oui, mais l'outil aussi justifie un prix.
Oui, absolument, c'est ça. Mais, oui. Donc c'est le premier élément de justification de la réponse, c'est que pour moi, ce qui justifie le prix, c'est pas juste de dire et de clamer qu'on est luxe, c'est notre patrimoine, notre histoire, la qualité du produit, la qualité de l'expérience et les valeurs que portent les marques.
Oui, mais elles n'ont pas changé. Et pourtant, vous arrivez à le traduire par une augmentation constante des prix.
Si elles sont encore là après 300 ans, c'est qu'elles changent, elles s'adaptent. Pas le produit en lui-même, hein, et encore, il y a des nouveaux produits qui arrivent. En revanche, les valeurs évoluent, il faut rester pertinent. Et je pense que c'est ça que portent les marques, c'est au-delà du produit, les valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, à une époque, on pouvait acheter un logo, puis ensuite on s'est intéressé à un produit de qualité. Et maintenant, on le voit bien, moi j'ai trois filles qui ont 27 ans, 25 ans et 22 ans. Les valeurs sont importantes, les valeurs que portent les marques. Et c'est là que je pense qu'il y a matière aujourd'hui à bâtir de la désirabilité, qui fait que l'achat n'est pas que rationnel, il est aussi irrationnel, entre guillemets, parce que y a du plaisir, il y a de la correspondance avec qui je suis, etc. Et donc je pense que ça y contribue. L'important est de ne jamais se moquer du client. C'est-à-dire qu'il faut toujours que le prix soit justifié. C'est pour ça que je démarrais par ça.
Une question qu'on voulait vous poser tout à l'heure, et on n'a pas eu le temps, mais c'est l'occasion. Vous venez de chez Richemont. Est-ce qu'aujourd'hui, pour diriger un groupe comme le vôtre, comme Rémy Cointreau, il faut mieux venir du luxe ou de la conso et de la consommation?
Je pense qu'il faut un sens produit fort, un sens des marques fort et des valeurs. Parce que dans un groupe familial, ces valeurs, elles sont incarnées d'abord par la famille. Et on se rend bien compte chez nous, peut-être plus que dans d'autres groupes, que les valeurs, on y adhère ou on n'y adhère pas. Pour comparer ensuite à Richemont ou de la distribution, je pense que on n'est ni un groupe de luxe, ni un pur groupe de vin et spiritueux. On est entre les deux. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est la sensibilité qui compte plus que le profil. Il est certain que pour l'ambition Louis XIII, par exemple, le passé que j'ai pu avoir est une aide, c'est sûr.
Le luxe. Question d'Alain Carrelet. Tiens, on va parler justement de croissance externe. Il a des idées pour vous.
Bonjour, je m'appelle Alain Caradoc, HEC 70. Je suis animateur du hub Luxe et Cosmétique HEC Alumni. Cher Eric, tu sais que j'apprécie beaucoup humainement et professionnellement ton parcours. Et j'ai une question concernant la stratégie industrielle que tu peux développer ou qui est souhaitable de développer dans une maison comme la tienne dans les années à venir. On sait que beaucoup de maisons de luxe ont cherché à intégrer leur supply chain et également leur distribution. On sait également aujourd'hui, ce sont des rumeurs qui sont persistantes, que le capital de la maison Baccarat est en cours de restructuration. Est-ce que ça ferait sens pour Rémy Cointreau de se rapprocher de ce dossier par rapport à une intégration donc de fournisseurs essentiels de flacons de cristal, notamment quand on sait que le Louis XIII, qui est votre marque emblématique, est fabriqué justement à Baccarat. Merci pour ta réponse.
Alors
se rapprocher, oui, toujours. Se rapprocher du dossier, c'est une autre question. Je pense que j'ai beaucoup, évidemment, de respect pour les savoir-faire de Baccarat qui ne sont pas les nôtres.
Et je... Moi, c'est clair.
Voilà. Donc, je pense que l'important pour nous est évidemment de bien travailler avec Baccarat. On est un partenaire historique de très longue date. Si je raisonne en tant que groupe Rémy Cointreau, ça n'est pas notre cœur de métier, ça n'est pas notre savoir-faire. Et par ailleurs, j'ai toujours un peu de... J'achète totalement le raisonnement sur l'intégration. Et avec Louis XIII, on va aller jusqu'à intégrer la distribution. Je pense que Baccarat, c'est d'abord une très belle marque dans le monde, et qu'elle a aussi son existence propre, et c'est d'abord une très belle marque, autant qu'un fournisseur.
Et alors d'autres, d'autres idées de croissance externe?
Et je l'ai dit, on est maintenant en train de réfléchir aussi à notre stratégie de croissance externe.
Vous l'avez déjà dit, oui.
Il y a des catégories de, par exemple, de spiritueux qui explosent, qui ont comme nous un lien très fort avec le terroir, et un potentiel de valorisation important. Je pense à la tequila, par exemple, qui est une catégorie intéressante à regarder. C'est pas un secret, on s'y intéresse, on n'est pas les seuls, mais c'est une catégorie potentiellement intéressante pour nous. Tout ce qui a un lien fort avec le terroir est intéressant. Et puis après, on a des très jolis savoir-faire qui pourraient nous permettre d'envisager des diversifications.
On n'en saura pas plus ou on
non.
peut en savoir
Non, bon, non d'accord. Mais je serais ravi d'apporter
mais un éclairage plus tard. On va avoir une question d'un journaliste de la communauté HEC, parce qu'il y en a quelques-uns, il vient souvent, Thomas Lestavel, qui réfléchit sur la Chine.
Bonjour Éric Vallat, je suis Thomas Lestavel, je suis journaliste. Ma question porte sur la situation en Chine, où la politique zéro Covid entraîne un confinement très strict qui pèse sur la consommation des ménages. Rémy Cointreau est très exposé à la Chine et à l'Asie en général. Comment se répercute la situation actuelle sur le groupe et quelles sont les perspectives en Asie? Merci.
On a déjà parlé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les perspectives à moyen terme. Est-ce que ça reste quand même un marché formidable pour vous?
Oui, parce que la Chine, c'est 60 millions de foyers par an qui accèdent à la classe moyenne. On s'est souvent interrogé il y a quelques mois sur la taxation du patrimoine en Chine, de manière à répartir les richesses autrement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je pense que même ça nous est favorable. Parce que nous, nos produits, c'est du luxe accessible par rapport à des produits de très grand luxe. Et donc, à la fois la démographie et le potentiel économique pour nous de la Chine font qu'on se projette de manière extrêmement positive, même si on est très durement touché aujourd'hui.
Mais la Chine change un peu, et pas seulement avec le Covid. Par exemple, toutes les campagnes anticorruption qui ont été faites ont à un moment donné beaucoup gêné le monde des alcools, notamment ceux des alcools avec des très forts prix, comme ceux de Louis XIII. Est-ce que ça, vous avez vu, par exemple, les ventes de Louis XIII redescendre en Chine?
Oui, alors cette campagne, notamment en 2013, elle nous a fait du mal, mais pour le mieux. Donc ça a été très dur à ce moment-là, pour Louis XIII, c'est vrai. Et on a complètement repensé notre distribution. Aujourd'hui, je parlais d'évoluer vers un modèle direct. Évidemment, ça nous prémunit de ce genre de risque aussi. On est beaucoup moins qu'on ne l'était une marque cadeau et beaucoup plus une marque qui se consomme. Donc on est reparti d'une base beaucoup plus saine sur laquelle on a construit. Parce que vous avez raison, il y a eu un impact qui était important à ce moment-là.
Oui, qui était énorme. Même. Ouais. Une question, tiens, on n'en a pas encore parlé. L'impact écologique du verre. Après, on parlera du métaverse, mais c'est d'abord une question de Meriadec Buchmuller sur comment réduire cet impact.
Bonjour Monsieur Vallat, Meriadec Buchmuller, fondateur et directeur général d'Isop, marque de tonic et de ginger beer. Donc ma question est la suivante, quelle est selon vous la réponse que va apporter les marques productrices de spiritueux ou autres, et donc de verre, pour réduire leur impact énergétique et écologique? Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas trop challengé encore, mais que les consommateurs vont nous demander de nous engager. Voilà, et ma question porte sur vraiment la partie distribution, distributive des produits. Je vous remercie.
Cette question est très intéressante parce que on parle beaucoup de la réduction de l'empreinte carbone. Et si on veut être tout à fait honnête aujourd'hui, les scopes 1 et 2, qui sont les scopes qui nous concernent nous, c'est-à-dire ce que nous, on émet avec nos usines, avec nos comme émissions de carbone, c'est 7% du total. Et effectivement, le packaging, la supply chain, et d'autres, mais c'est le reste. Et donc c'est très important de s'attaquer à ce sujet-là. Il y a deux manières de s'y attaquer pour moi, en tout cas il y en a probablement d'autres, mais sur lesquelles en tout cas on travaille d'arrache-pied. La première, c'est en amont, donc le verre, on commence à lancer des bouteilles en verre recyclable, à étudier de nouveaux matériaux. On s'est donné pour objectif en 2025 d'avoir 100% de nos bouteilles éco-conçues. Le chemin à parcourir est long, on a commencé. On a aussi supprimé, ce qui était un choix très courageux, on est les premiers à l'avoir fait, mais tous les étuis de nos VSOP de cognac, par exemple, hein, et on a maintenant la bouteille nue. Donc on a fait des choix assez radicaux, qui étaient risqués, mais qui se sont avérés plutôt payants aujourd'hui, puisque je pense qu'il y a vraiment une maturité de la clientèle. Puis après, il y a la question de l'aval, c'est effectivement, est-ce qu'on récupère nos bouteilles, comment est-ce qu'on peut les récupérer, etc., qui est un sujet... que l'on travaille par exemple en Chine, pour être tout à fait honnête, au départ, c'était à cause de la contrefaçon. On voulait récupérer les propres bouteilles que l'on distribuait.
On faisait en Bourgogne ou dans le Bordelais aussi.
Absolument. Et ça, c'est devenu aussi du coup un enjeu RSE très important.
Sur le travail des vignes, est-ce que là, on vit que dans le Bordelais, notamment dans Saint-Émilion, on progresse beaucoup, donc il y a beaucoup de vins en biodynamique, il y a même des chevaux de labour qui font leur retour. Comment vous travaillez vos vignes?
Alors on est, ça date de bien avant mon arrivée aussi, mais on a été le premier label, nos domaines ont été les premiers à être HVE, hein, haute qualité environnementale, dans la région de Cognac, il y a déjà pas mal de temps. Donc c'est un sujet qui est pas nouveau. Je pense que ce qui est très nouveau aujourd'hui chez nous, enfin ça fait maintenant 5 ans, c'est notre volonté d'embarquer tous nos partenaires, parce que c'est bientôt bien beau de le dire qu'on fait dans nos domaines, mais on source aussi nos produits auprès de partenaires viticulteurs qui sont très engagés aujourd'hui aussi dans cette démarche de haute qualité environnementale, mais il faut aller plus loin. Hein, on est en train par exemple de tester aussi des cépages climato-résistants par exemple, puisqu'on peut aussi s'interroger sur la viabilité à 50 ou 100 ans de la vigne à cognac. Et donc on va plus loin aujourd'hui dans ce domaine-là, puisqu'on va jusqu'à tester sur nos domaines pour le compte de l'interprofession. On n'est pas les seuls, hein, nos camarades le font également.
Ça fait combien d'hectares de cépages?
Nous on a, pour schématiser, 200 hectares.
Alors après la vigne, le verre, voici le métavers, mais je préfère que ce soit Géraud Vaublanc qui vous pose la question.
Bonjour, Géraud Vaublanc, je dirige Fracado Pur, agence conseil en com de crise et d'influence. Eric, récemment, votre marque Absolute Vodka a créé l'événement en investissant dans le monde virtuel du métavers. Alors pour un groupe comme le vôtre qui s'est donné pour vocation d'être créateur de convivialité, en remplissant dans le monde bien réel les verres de centaines de millions de clients chaque jour, quel est le sens d'investir dans le métavers? Des verres au métavers, super coup de com' ou envie de réinventer la notion de convivialité? Merci.
On va oublier la confusion de Géraud Vaublanc, parce que Absolute Vodka est une marque effectivement de Pernod Ricard, mais pas de Rémy Cointreau. Mais est-ce que la manière dont effectivement le métavers et le digital rentrent dans cette industrie vous fait penser à des possibles autres déclinaisons de produits? Est-ce que les NFT dans le monde des alcools, ça a un sens? Enfin voilà.
Le NFT, oui. Je suis beaucoup plus convaincu du NFT que du métavers aujourd'hui, mais on regarde aussi le métavers et on va voir où il nous emmène. Hein. Je pense que le NFT a changé beaucoup de choses, puisque maintenant il y a effectivement une traçabilité totale, digitale du produit. Et nous, ça peut nous amener à développer des services particuliers. On a aussi des tiercons, par exemple, que l'on pourrait, ou des tonneaux que l'on pourrait imaginer de vendre de manière digitale, puisque ça représente, on va dire, 800-900 bouteilles. Et donc, une personne peut acheter son tonneau en digital, le revendre. Donc, il y a plein de choses qu'on peut imaginer grâce au NFT qui permettent de monétiser les choses, mais surtout, beaucoup plus important, la traçabilité totale. Le métavers, c'est très intéressant de regarder, on teste. Moi, je suis en mode test and learn sur ce sujet-là, parce que je ne vais pas prétendre connaître. J'ai 51 ans, je suis trop vieux pour tout comprendre. Heureusement, j'ai 3 filles qui me maintiennent un petit peu dans le bain. Mais clairement, c'est un nouveau territoire de communication qui vient s'ajouter au territoire physique, qui est le territoire virtuel. Et quelle est l'empreinte virtuelle de la marque? C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Et plus seulement à travers l'e-commerce ou le site internet, mais effectivement à travers le monde virtuel.
Eric Vaublanc, on arrive presque à l'heure de la conclusion de cet entretien à HEC. On va parler de rémunération et de salaire.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Bon, question directe peut-être, Eric Vaublanc. Est-ce que vous avez été choqué par la rémunération de Carlos Tavares, Stellantis avec plus de 19 millions d'euros, même si évidemment c'est un package. Il a réussi, enfin il est en train de réussir, on a le sentiment en tous les cas, un rapprochement avec Fiat. Est-ce que c'est, tout est justifié ?
Je ne saurais pas dire ce qui est justifié ou ce qui ne l'est pas. En plus, j'étais à l'étranger au moment où cette affaire est sortie. Mais je vais quand même vous répondre. Je comprends que ce soit choquant, bien sûr. Bien sûr.
Voilà, est-ce qu'il faut limiter un plafond, comme le suggérait Emmanuel Macron pour les dirigeants ?
Je ne sais pas dire quelle est la meilleure manière de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu de répartition des richesses que l'on se doit d'adresser et qu'on essaye d'ailleurs d'adresser à notre manière chez nous, puisqu'on a lancé un plan d'actionnariat salarié, qu'on a 75% de nos employés qui ont souscrit en France, qu'on s'apprête à l'étendre dans le monde. Il y a un enjeu, effectivement, aujourd'hui, autour de ce sujet-là.
Alors, restant justement dans le domaine de la personnalité très familiale de Rémy Cointreau, tout à l'heure, effectivement, notre ami De Bayne avait évoqué la possibilité de sortir de la cote. Est-ce que on y pense de temps en temps dans une famille, parce que c'est une tendance que l'on voit avec des grands capitalistes français dans d'autres secteurs, les télécoms par exemple. Est-ce que c'est une question que se pose la famille Hériard-Dubreuil de temps en temps?
Alors, je pense que, je ne sais pas si du coup on pourra se la poser, mais comme vous le parliez de la valorisation, elle est très bonne en ce moment, donc ça rend la chose plus difficilement envisageable. Donc l'objectif n'est pas de faire baisser la valorisation pour le faire non plus. Après, je pense que, en tout cas, ça permettrait un certain nombre de choses, évidemment, qui s'inscrivent bien dans les valeurs de la famille qui se projettent à long terme. Mais la bourse nous a aussi aidés à différents moments de notre histoire. Je pense qu'elle apporte aussi une tension au quotidien qui n'est pas inintéressante. Mais je ne suis pas à la place de la famille pour vous répondre. En tant que directeur général, en tout cas, moi, je suis intéressé par cette ambivalence qui peut être soit un dilemme, soit une opportunité. À nous d'en faire une opportunité.
Vous me tendez une perche, je la saisis, Eric. Voilà. Il y a eu pas mal de directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de Rémy Cointreau. Est-ce que c'est difficile d'être un directeur général qui n'appartient pas à la famille dans un groupe familial ?
Je ne pense pas, parce que si vous regardez les 20 dernières années, ça a toujours été des directeurs généraux qui n'étaient pas de la famille, à partir des années 2000. Je pense que la famille aujourd'hui, puisque je ne suis pas à leur place, mais a fait le choix, en termes de gouvernance, d'agir en actionnaire et de laisser le pilotage des affaires au CEO. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe bien en tout cas. Moi, je ne le vis pas au quotidien comme une difficulté où je ne ressens pas de pression à ce sujet-là.
Alors, pour boucler la boucle, et puis comme on a beaucoup parlé de rémunération dans cette conclusion, on a commencé avec le résultat de l'élection présidentielle, et une des propositions qu'a fait Emmanuel Macron est de mettre en place ce dividende salarial obligatoire. Ça va au-delà de ce qu'est la situation de chez Rémy Cointreau, où vous avez pas mal de gens qui sont actionnaires. Mais est-ce que ça vous semble une notion intéressante, justement, pour essayer de faire baisser la tension sur ces questions d'inégalité des rémunérations ?
La notion est intéressante. Je ne sais pas juger de difficultés de mise en œuvre, etc. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a tous la responsabilité de réfléchir à cette répartition des fruits de la croissance. On y a beaucoup réfléchi nous-mêmes, à travers des accords récents sur la participation, des formules dérogatoires plus favorables, à travers des primes qui ont pu être allouées compte tenu de nos bons résultats, etc. Je pense en tout cas que c'est un enjeu auquel on ne peut pas tourner le dos. C'est certain. Après, encore une fois, je pense que dans un groupe familial, il y a dès le départ peut-être une prise en compte de cela, peut-être héritée d'un paternalisme du 19e siècle, dont il n'y avait pas que du mauvais. Mais c'est vrai que je pense que l'entreprise est aussi une famille, peut-être encore plus dans le cas d'un groupe familial qu'il ne l'est dans un groupe purement coté.
Merci Eric Vallard, merci aux équipes d'HSC, merci aux équipes de BFM Business et à William Baudry qui a préparé cette émission. Rendez-vous le mois prochain.
Merci Edwige et merci Eric Vallard.
Merci beaucoup, merci.
L'entretien HSC avec Challenge sur BFM Business.